Bonjour David, bonjour à tous. Manifestation nationale à l'appel de plusieurs organisations syndicales mardi prochain, le jour où le Premier ministre doit prononcer sa déclaration de politique générale à l'Assemblée nationale. Lactalis va réduire sa collecte de lait de 9% d'ici un an. Alors, quelle incidence, conséquence pour les exploitations nord-sévriennes? Élément de réponse dans ce journal. Être à l'écoute des citoyens, objectif des rencontres organisées cet automne par la municipalité toircaise. Une nouvelle aura lieu demain samedi. C'est une première dans notre département, un championnat de France de tir à l'arc ce week-end à Ardin, dont l'organisation a été confiée aux archers de Lotise. Toujours dans l'actualité sportive, Cholet entame ce soir à La Rochelle sa nouvelle saison en Betclic Elite. Quant à la météo, passage nuageux accompagné parfois de pluie et période d'éclaircies, c'est le programme de notre après-midi. Une intersyndicale composée de la CGT, Force Ouvrière, FSU et Solidaire appelle à la grève et à la manifestation le 1er octobre pour réclamer l'abrogation de la réforme des retraites. L'augmentation des salaires et la défense des services publics figurent également parmi les principales revendications dans un contexte politique que l'on connaît. Pascal Lumineau est particulièrement remonté et dénonce un déni de démocratie avec la nomination de Michel Barnier à Matignon. Le secrétaire de l'Union locale CGT de Bressuire considère que l'austérité, eh bien, c'est toujours pour les mêmes.
L'austérité, elle s'applique toujours aux plus faibles, à la masse laborieuse, à ceux qui travaillent, à ceux qui gagnent pas beaucoup. Et les plus riches, il faudrait pas qu'ils payent d'impôts parce qu'ils partiraient. Mais ça, c'est des fausses excuses. C'est pas vrai. La richesse qui est créée, même dans notre bocage, c'est les travailleurs. Il y a 23 000 travailleurs dans le bocage. C'est eux qui créent la richesse. Et ça, c'est important. Et ça représente une force. Les travailleurs, ils doivent rester unis, ils doivent se mobiliser, ils doivent aller, se rencontrer, discuter entre eux, et pas se faire avoir avec l'imposture du Rassemblement National, parce que il y a des travailleurs qui s'y perdent, là. Le Rassemblement National, il a jamais voté pour l'augmentation du SMIC, et surtout, il veut que, si on augmentait les salaires, ce serait en diminuant les cotisations sociales. C'est exactement ce que veut le MEDEF. Alors c'est vraiment une imposture. Et les travailleurs, il ne faut pas qu'ils se trompent de camp. Le Rassemblement National, c'est pour diviser les travailleurs. Et nous, on veut que les travailleurs soient unis. Et puis c'est en étant unis qu'on a plus de chances de gagner et obtenir un salaire digne pour pouvoir vivre dignement. Et ça, on a droit à ça.
Quoi. Appel à la mobilisation donc mardi prochain à l'appel de la CGT Force Ouvrière FSU et Solidaire. Dans notre département, 3 rassemblements sont prévus. À 11h, place de la Brèche à Niort. À la même heure, place Lavaux à Thouars. Et dans l'après-midi à 14h, place Saint-Jacques à Bressuire. Lactalis va réduire sa collecte de lait de 9% d'ici un an. L'annonce du groupe laitier a fait l'effet d'une déflagration, pour reprendre les termes employés par le président de la FNSEA, car cela représente une réduction de 450 millions de litres sur un volume total de 5 milliards de litres collectés dans les fermes françaises. Alors, question, quelles incidences dans les exploitations en nord de Sèvres? Fabien Gazot a posé la question à notre spécialiste agriculture, Ludovic Cotillon.
10% en fait des éleveurs sont chez Lactalis, on estime. Donc à peu près, ça fait 25 à 30 exploitations de touchées là par cet arrêt. Donc Lactalis a annoncé l'arrêt de collecte en Deux-Sèvres dans un an. Donc les éleveurs, ces 25-30 éleveurs-là, ont un an pour trouver une autre laiterie en fait, clairement. Sinon, ils ne pourront plus commercialiser leur lait. Donc l'enjeu pour eux, il est économique pour retrouver un débouché pour leur production quotidienne. Au niveau de leur exploitation, et donc pérenniser ensuite leur production.
Retrouver une laiterie, est-ce que ça peut se faire facilement et rapidement?
Disons qu'en fait, les enjeux, c'est de dire si on quitte Lactalis, où est-ce qu'on va? Sur le territoire, il reste en fait... Donc Lactalis est un terrain privé, en fait. Et sur le territoire, ensuite, il reste 3 coopératives, qui sont donc Terra Lacta, basée à Surgères. Il restera ensuite Agrial, qui est l'une des plus grosses coopératives de France. Et ensuite, il restera la petite coopérative à Pompli, du coup, avec une cinquantaine de producteurs, qui, elle, a un rayon de collecte d'une quarantaine de kilomètres autour de Pompli. Et ensuite, il reste un privé, à part ces 3 coopératives, il reste LSDH, donc Saint-Denis d'Hôtel, qui, elle, travaille avec la marque C'est qui le patron, que beaucoup de gens connaissent peut-être, et qui, elle, c'est par exemple elle qui a mis l'usine de Cholet, l'abeille, en route, l'usine d'embouteillage. Donc ils auront le choix entre globalement ces 4 heures.
On peut aussi rajouter Terre de Sèvres, anciennement CLS, qui collecte pour faire le beurre déchiré, mais plutôt donc sur le sud des Deux-Sèvres. Sauf que changer de laiterie ne se fait pas d'un claquement de doigts. Il faut notamment répondre au cahier des charges des coopératives. Ludovic Cotillon.
On est sur une zone de beurre AOP Charente-Poitou, dans laquelle Lactalis ce n'était pas elle. Le cahier des charges Blanchard-en-Poitou, en fait, il y a des critères d'approvisionnement de fourrage qui doivent venir de la zone région et ensuite de quantité de concentré limitée. Donc ça, est-ce que les éleveurs sont prêts à rentrer? Et une laiterie comme Pampli, par exemple, n'acceptera que les éleveurs qui sont dans ce cahier des charges-là. Et ensuite, on a Terra Lacta et Agrial en face, par exemple, qui eux auront le choix, donc soit le cahier des charges AOP Blanchard-en-Poitou, ou soit un lait plus conventionnel comme Lactalis, sans cahier des charges, s'ils en ont besoin et s'ils acceptent que les éleveurs rentrent dans cette configuration-là. Donc ça, c'est un premier point, donc le cahier des charges, le secteur géographique, et puis ensuite, il y a est-ce qu'on rentre dans une coopérative, est-ce qu'on est coopérateur, est-ce qu'on est prêt à mettre des parts sociales dans une coopérative, donc ça demande un appel de trésorerie. Et ensuite, est-ce qu'on est propriétaire de son temps ou pas? Il y a plusieurs axes hein, de travail à se mettre d'accord avec le prochain collecteur. Il y a des solutions, mais c'est pas si simple que ça.
Ludovic Cotillon, notre spécialiste agriculture, à propos de l'annonce de Lactalis de réduire sa collecte de lait de 9% d'ici un an. Vous retrouvez Ludo hein, dans la rubrique À travers champs chaque jeudi à 7h40 et le dimanche à 9h30. Sur Colline. L'EHPAD de Chiché va retrouver une seconde jeunesse. Les travaux ont débuté en juin 2024 et s'achèveront 12 mois plus tard, donc en juin 2025. L'extension pourra alors accueillir les résidents. Il restera ensuite à transformer l'existence, ce qui sera fait en octobre 2025 pour un investissement total de 3,5 millions d'euros. Il s'agit d'améliorer les conditions d'accueil des aînés et de faciliter les conditions de travail dans cet établissement dirigé par Sophie Chanet.
Aujourd'hui, ils travaillent sur 4 niveaux. On a le bâtiment historique où on a des salles de bain communes. Il y a seulement un cabinet de toilette dans chaque chambre. Des chambres doubles, donc aujourd'hui, ce n'est pas des conditions d'accueil qui respectent la dignité et les souhaits de chaque résident aujourd'hui et leurs besoins. Donc voilà, c'est vraiment aussi pour ça qu'on a lancé ce projet.
Alors pour les conditions de travail, il y aura moins de kilomètres à parcourir dans les couloirs.
Oui, beaucoup moins de kilomètres, plus de fluidité, seulement 2 niveaux. Aujourd'hui, quand elles sont à un bout du bâtiment, je pense à l'infirmière par exemple, qui peut être appelée au 2e étage, elle doit traverser tout l'établissement, prendre 1 ou 2 ascenseurs, ça dépend où elle se trouve. Donc voilà, c'est aussi fluidifier leur travail au quotidien et avoir plus de temps auprès des résidents qu'à traverser les couloirs.
Ouais, puis il y a aussi des rails hein, dans les chambres.
Oui, c'est ça. Aujourd'hui, on a 14 chambres qui sont équipées. On a 21 rails qui vont être installés, donc 35 chambres seront équipées de rails sur 47 lits côté EHPAD, ce qui est quand même une très belle couverture en termes de rails, donc c'est une très belle chose.
Car l'entrée en maison de retraite se fait de plus en plus tard, 88 ans en moyenne, rappelait François-Marie, le maire de Chiché, ravi de voir ce projet avancer au cœur d'un secteur où toutes les générations se croisent.
Aujourd'hui, cette maison de retraite est censée s'adapter au vieillissement de la population que nous avons aujourd'hui, à la pyramide des âges, à l'entrée en maison de retraite qui est beaucoup plus tardive qu'il y a 5 ans ou il y a 10 ans. Et nous souhaitons répondre avec cet endroit, avec un lieu de vie, de qualité et d'échange intergénérationnel avec tous les établissements qui sont autour, à savoir la garderie périscolaire, le centre de loisirs, la bibliothèque, la micro-crèche, le parc avec le City Stade et ainsi de suite. Et puis bien évidemment aussi, on fait quelque chose qui en termes d'environnement est à la pointe de l'évolution de ce qui est nécessaire à la situation des consommations d'énergie.
Donc 59 lits aujourd'hui, on reste sur la même jauge?
Oui, on reste exactement sur la même chose, toujours 59 lits, 13 personnes en pavillon Alzheimer et une personne en accueil de jour.
François-Marie qui a exprimé son émotion, mais aussi son inquiétude en présence des élus, des représentants de l'État et de l'ARS, alors que les établissements accueillant des personnes âgées dépendantes rencontrent de grandes difficultés financières. La directrice Sophie Chanet.
Le mur n'est plus proche, je pense qu'on est dedans. Et nous, on le voit aussi aujourd'hui quotidiennement, puisqu'on a des ratios d'encadrement sur le papier, mais dans la réalité, comment on peut accompagner 47 personnes à 2 agents de soins en après-midi pendant 5 heures? C'est la réalité aujourd'hui qu'on a dans nos établissements. Donc on prend des risques financiers puisqu'on essaie de compenser ces manques. Mais quelle réponse aujourd'hui a-t-on jusque-là? Pas de travaux d'envergure. Beaucoup de reports de la loi Grand Âge. Moi, ça fait 5 ans que je suis en poste ici à Chiché. Je n'ai toujours pas vu la couleur. Donc un EHPAD neuf et avec des conditions de travail et d'accueil à la hauteur de ce qu'on attend, c'est parfait. Faut-il qu'on ait encore des équipes à l'intérieur et des résidents qu'on pourra accompagner dans de bonnes conditions.
L'EHPAD Saint-Joseph de Chiché fait partie du GCSMS de la Sèvre, un groupement de maisons de retraite qui regroupe Chiché donc, mais également l'Apsy, la Chapelle Saint-Laurent et Montcoutant-sur-Sèvre. La municipalité toircaise propose plusieurs rencontres avec la population. La première s'est tenue à Saint-Radégonde, commune déléguée de Thouars. Elle a réuni une bonne quarantaine d'habitants venus exposer ce qui les intéresse ou les tracasse. L'analyse du maire Bernard Pénaud sur cette première rencontre au micro-colline de notre correspondant toircais, c'est Dominique Hérault.
L'idée, c'était pas de venir vers les gens comme on le fait quelquefois, faire de la concertation sur un projet ou présenter un projet dans son évolution comme on a fait pour les places par exemple. Et il s'agissait d'aller voir les gens avec rien en disant on est venu pour vous écouter. Quels sont vos besoins, vos envies, vos reproches? Il y a des choses qui tournent autour des espaces verts, mais dans le sens de la propreté, de l'entretien, des endroits que les gens aimeraient que ça soit entretenu plus régulièrement. Donc ça vient se confronter quelquefois au respect de la biodiversité, mais en même temps c'est complètement entendable dans certains endroits. La circulation aussi, la vitesse, mais aussi la place du vélo, la place du piéton, la sécurité routière, quoi. Ça, ce sont des choses qu'on a entendues aussi. Ce qui était intéressant, c'est de venir vraiment vers les gens, de réenregistrer ou d'enregistrer, parce qu'il y a des choses qu'on ne savait pas, toutes les demandes des gens, et puis surtout maintenant, ça nous oblige à répondre par des actes, et pas des paroles. Effectivement, les gens ne nous ont pas tellement parlé, ou voire pas du tout, des projets structurants. C'était plutôt serein comme climat, c'était pas tendu. Et donc c'est agréable d'aller vers les gens dans des conditions comme ça, ça donne envie de faire des choses pour eux.
Beaucoup moins tendu donc que certaines réunions du conseil municipal qui peuvent virer à la foire d'empoigne sur le plan verbal. Les rendez-vous citoyens, tels que ceux qui sont organisés cet automne, semblent être voués à être plus constructifs, surtout s'ils ressemblent au premier. À venir donc le prochain, ce sera en terrain conquis pour Bernard Pénaud, qui a passé sa jeunesse. Ce sera à Nozay-Thouarsay demain samedi à 10h, puis Rignier le 14 octobre à 19h, Soulbrois le 22 octobre également à 19h. Viendront ensuite Nicé et Thouars, où les débats pourraient être plus nerveux. Reportage de Dominique Hérault. Le marathon de la coupe de cheveux est bien parti pour remplir son objectif. 275 personnes, pardon, ont déjà pris rendez-vous auprès des 29 coiffeuses et coiffeurs mobilisés ce week-end autour de Muriel Guignard à l'occasion de la seconde édition du marathon qui lève des fonds pour deux associations venant en aide à des enfants malades. L'objectif cette année est d'atteindre les 500 coupes. Il reste de la place, 100 rendez-vous sur les créneaux de nuit ou pour les lève-tôt de 5 à 8 heures les matins. Le marathon de 42 heures débute ce vendredi soir et s'achèvera dimanche après-midi avec une multitude d'animations en parallèle. Tout cela se déroule à la salle Bel Air de Montcoutant-sur-Sèvre. L'association Sans Pourrin en Bocage, qui soutient des familles d'immigrés en leur proposant notamment un toit, lance un appel aux propriétaires locaux. Elle indique qu'une famille expulsée du CADA, centre d'accueil de demandeurs d'asile de Cholet, se retrouve aujourd'hui à la rue avec 5 enfants de 10, 8, 7 et 2 ans et 2 mois. Étant au maximum de ses possibilités financières, Sans Pourrin en Bocage n'a à ce jour aucune capacité à les prendre en charge et lance donc un appel à d'éventuels propriétaires disposant d'une habitation à petit loyer que pourrait assurer le père de famille. Vous pouvez vous manifester au 06 45 14 81 53, numéro de téléphone que nous tenons bien entendu à votre disposition. L'actualité sportive est cette première dans notre département. Ce week-end, les Deux-Sèvres accueillent en effet pour la première fois un championnat par équipe et mixte de tir à l'arc, organisé par la Compagnie des Archers de Lotise, un des clubs les plus importants de Nouvelle-Aquitaine, avec plus d'une centaine de licenciés et au palmarès pour le moins remarquable, avec une soixantaine de titres de champion de France, sans compter les divers podiums en individuel ou encore par équipe. Et si les Archers de Lotise ont obtenu cette organisation, ce n'est pas le fruit du hasard, comme nous l'explique le président Christophe Tisseron.
On a obtenu cette organisation grâce à l'équipe féminine de l'an dernier, qui a été sacrée championne de France. Et donc, lorsque l'on gagne le championnat de France, eh bien, l'année suivante, parfois ce sont les hommes, parfois les femmes qui organisent le championnat de France suivant. Et donc, c'est une lourde tâche qui nous a été confiée, mais en tout cas, c'est une tâche qu'on exécute et qu'on va essayer d'accomplir avec plaisir et réussite.
Quelques 70 équipes, les meilleures de France, sont attendues à Ardin ce week-end. Demain, samedi, aura lieu le championnat de France par équipe hommes et équipe femmes. Le dimanche par équipe mixte dans une discipline intitulée et baptisée le tir à l'arc dit en parcours 3D. Les explications nécessaires de Christophe Tisseron.
Il y aura 24 cibles qui représentent des animaux en mousse qui sont en 3 dimensions. Ces cibles, les tireurs ne connaissent pas du tout la distance. Donc c'est des tirs qui se font entre 5 mètres et 45 mètres, selon les tailles des bêtes, selon l'arme également utilisée par les tireurs. On essaie de faire un parcours qui fait à peu près 3 km, 4 km, un peu comme du golf. L'archer arrive sur un pas de tir, ne voit pas la cible, ne connaît pas la distance. Il doit estimer, avec un temps réduit, la distance, la bête, la configuration du tir, savoir si c'est un tir en pente, ça va changer la balistique, évidemment. Et donc, c'est la particularité de cette discipline, c'est qu'on change à chaque fois de situation de tir et on met l'archer dans de nouvelles conditions puisque les cibles peuvent être très très pentues parfois, vers le haut, vers le bas, en dévers, et c'est ce qui fait le charme de cette discipline.
Vous êtes bien entendu invité à suivre ces championnats de France à Ardin tout ce week-end, d'autant plus que de nombreuses animations sont prévues comme des initiations. En basket, le coup d'envoi ce soir de la nouvelle saison de Betclic Elite pour Cholet. Pour leur première journée de la saison régulière, l'équipe des Mauges se déplace affronter le promu La Rochelle, une formation qui certes découvre l'élite du basket hexagonal, mais qui ne doit pas être prise à la légère. Fabrice Lefrançois, le coach de Cholet Basket.
De une, on sait que ce ne sera pas facile. De deux, effectivement, c'est une équipe qui a perdu qu'un seul match à domicile l'année dernière, sur toute la saison, dans une petite salle. Premier match de leur histoire dans la division. Il va y avoir une énergie un peu particulière. Donc si on arrive là-bas, on pense que ça sera facile. On est dans l'erreur. On est déterminé, voilà, enthousiaste à l'idée de commencer cette saison. Et puis voilà.
Est-ce que tu te sens un peu observé aussi du fait de commencer une semaine après tout le monde? Est-ce que tu dis voilà, est-ce que Cholet va.
Et puis est-ce que les autres pensent c'est pas. Voilà. Bref. De façon correcte ou pas?
On ne dira pas plus. Fabrice Lefrançois, le coach de Cholet Basket au micro colline de François Larue. La Rochelle, Cholet en Betclic Elite, c'est donc ce vendredi coup d'envoi du match à 20h.